C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Ici Emmanuel Macron. Voici Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard.
Oui, allô Christophe Gérard, qu'on retrouve donc en Europe, en banlieue de Paris, ou même peut-être même pas en banlieue, à Mérou, parce que quand même un petit peu plus loin que Paris. Comment ça va?
Alors Mérou, c'est un poisson. J'habite Méru.
Méru. Ah, je suis... Ben oui, il y a des fois le monsieur, il se trompe. Hein? Alors Christophe, on va commencer la chronique aujourd'hui avec un dossier brûlant. On va plonger dans les coulisses de ce qui s'est passé au Parlement européen les 2 et 3 février derniers. On a l'impression que Bruxelles est devenue le temps d'un sommet, la capitale mondiale de la régression.
Tout à fait, c'est exactement l'ambiance qui régnait. Alors qu'on... J'en parle souvent ici, hein, on a l'impression que les institutions européennes se targuent d'être le rempart des libertés. Le cœur de Bruxelles a de nouveau vibré, alors je dis de nouveau vibré parce qu'il y a déjà eu le cas en décembre 2024, les 2 et 3 février 2026, au rythme d'un sommet aux accents ouvertement réactionnaires, un sommet qui s'appelle le Transatlantic Summit, c'était la 7e édition, officiellement dédiée à la liberté d'expression, et mais ce n'était rien d'autre qu'une démonstration de force de l'international ultra-conservatrice. Ce qui est glaçant, c'est que cet événement est orchestré donc par le réseau Political Network for Values, et il s'est tenu sous le parrainage direct de groupes comme celui de Jordan Bardella, donc le RN chez nous, et Marion Maréchal, j'ai envie de rajouter Le Pen, hein, puisque ce n'est autre que la petite fille de Jean-Marie, avec la bénédiction des Patriotes pour l'Europe et de l'ECR, les conservateurs et les réformistes européens.
Alors, tu parles d'une alliance transatlantique de la régression. Jusqu'où vont ces connexions?
Ben, elle traverse l'océan, Denis. En fait, le Political Network for Values, c'est pas un simple cercle de réflexion, c'est un pivot d'un réseau national mondial connectant l'extrême droite européenne aux lobbies les plus radicaux des Amériques. Son président n'est autre que José Antonio Kast, une figure de proue de la droite ultra-conservatrice chilienne, et il a profité de ce sommet pour rappeler à une alliance pour le bon sens face à ce qu'il nomme la tyrannie progressiste. Mais derrière ce vocabulaire qui est lisse et propre, on va dire, la liste des participants confirme une dérive inquiétante. On y trouve notamment Lucie Akello, qui est une des députées ougandaises qui a œuvré activement pour la mise en place de la loi anti-homosexualité de 2023, en Ouganda, qui prévoyait entre autres la peine de mort. Sa présence récurrente, elle était déjà là en 2024, souligne la volonté des organisateurs de normaliser des discours d'élimination des minorités.
Alors, c'est le sommet de la criminalisation de nos vies, finalement. On y a croisé d'autres figures de cette offensive?
Tout à fait. Hein. C'est la crème du lobbying anti-LGBT et anti-IVG mondial qui était là. On peut citer notamment l'américaine Sharon Slater, présidente de Family Watch International, qui promet entre autres les thérapies de conversion et l'idée que l'homosexualité est un trouble. Il y avait également Rodrigo Iván Cortés, venu du Mexique. Il a été pourtant condamné pour violence transphobe. Ou la sénatrice colombienne Paola Holguín, venue renforcer le front latino-américain contre les droits reproductifs. La présence également de cadre de la Heritage Foundation qui rappelle que ce sommet est le bras armé européen du projet 2025, ce plan soutenu par les proches de Trump pour démanteler notamment les protections LGBT et restreindre l'accès à l'IVG à l'échelle internationale. Donc ce sont des lobbies pour lesquels Bruxelles est le nouveau front d'une guerre de culture globale et mondiale.
Alors comment les autres eurodéputés ont-ils réagi à cette occupation de l'espace public européen?
Alors, en décembre 2024, c'était passé, mais vraiment sous les radars. Là, contrairement aux éditions précédentes, l'opposition a été frontale et documentée. Alors, c'est la gauche et les Verts, notamment par la voix de Manon Aubry, qui est une eurodéputée La France Insoumise, qui ont dénoncé l'utilisation des moyens du Parlement pour diffuser ce qu'ils appellent des discours de haine et de mort. Hein, et c'est pas par hasard. Ils ont officiellement demandé à la présidence de suspendre l'accès aux salles pour les organisations prônant des violences des droits humains. Il y a également le groupe Renew, donc Renaissance Europe, par la voix de Valérie Ayer, qui a fustigé l'hypocrisie totale de Bardella et Maréchal, qui s'enferme dans une posture de victimisation, hein, de lutte contre la censure wokiste. Le plus amer dans l'histoire, c'est l'aspect logistique. Rends-toi compte, Denis, on est en février 2026 et on a, nous, alors quand je dis nous, c'est la communauté queer européenne, dû de nouveau financer via la mise à disposition d'infrastructures, donc les salles, mais également la sécurité, la stratégie de ceux qui veulent nous effacer.
Alors, une enquête nécessaire, Christophe, mais cette offensive là, s'installe aussi au cœur de l'éducation. En Savoie, une alerte vient d'être lancée, l'Alliance Vita, plane sur un collège de Chambéry.
Ouais, j'avoue qu'en préparant cette chronique, moi j'en avais froid dans le dos. La vigilance est montée d'un cran, hein, donc c'est une association qui s'appelle Visa 73 qui a élevé le lièvre. Un cycle de formation a été organisé dans un collège privé catholique sous contrat qui s'appelle Saint-François de Sales. L'animateur, ben, c'est Alliance Vita. Donc on pensait avoir fait le tour des méthodes de ce genre d'institution, mais là c'est vraiment un poids lourd du lobbying réactionnaire qui s'implante.
Alors justement, Christophe, pour nos auditeurs, qui est réellement l'Alliance Vita?
Alors, c'est une machine de guerre idéologique qui a été fondée par une ex-députée qui s'appelle Christine Boutin, qui avait fait parler beaucoup d'elle en son temps, donc notamment contre le PACS, et c'est une des figures de proue du mouvement La Manif pour tout. Et c'est porté également par des figures comme Tuctuel d'Herville. Alors, dernier des mots, là aussi, qui sont tout propres, comme bioéthique ou bienveillance, bah, le contenu est sans équivoque. C'est anti-IVG radical, ça remet en cause la contraception, c'est un rejet total de toute parentalité qui ne serait pas hétéronormée. Donc, on utilise le caractère propre, c'est une loi qui a été mise en place en 1959 pour les établissements privés. Comme un paravent, mais donc en fait c'est la possibilité pour un établissement catholique d'avoir notamment une éducation un peu spécifique, notamment des cours de religion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un établissement sous contrat donc de l'État, et que par conséquent il est financé par l'État et qu'il se doit de respecter de la neutralité scientifique, également l'inclusion de tous les parcours de vie, y compris les parcours de vie queer, donc les éducation à la sexualité, ce qu'on appelle chez nous le programme EVARS, c'est une obligation légale, hein, et pas une option de prosélytisme réactionnaire.
Et le problème ne s'arrête pas au privé, le public est aussi sous pression.
Oui, il y a des collectifs de parents qui souvent sont proches du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, mais également des héritiers donc de la Manif pour tous, qui bombardent directement les directions d'établissement pour en public de courriers type. Le but, c'est de leur faire annuler des interventions, notamment du planning familial, en criant à la fameuse théorie du genre. Je pense que vous l'avez également par chez vous. C'est une pression qui pousse certains enseignants à l'autocensure, qui prive les élèves d'informations vitales sur le consentement. L'intersyndicale éducation réclame aujourd'hui des sanctions fermes, allant jusqu'à la rupture du contrat pour les établissements, notamment les établissements privés, qui ne respecteraient pas, qui préfèrent l'idéologie, en tout cas, au programme de l'État.
Maintenant, cela nous amène au troisième volet de ta chronique, le démantèlement organisé du planning familial au profit de réseaux soutenus par des milliardaires.
Et tout à fait. Donc, c'est un glissement de terrain silencieux. En fait, il y a un nom qui revient en boucle, qui s'appelle Familia, et derrière ce nom qui peut paraître bien marqué de manière marketing, bah, ça cache le fer de lance d'une offensive contre l'autonomie de nos corps. En fait, la méthode est chirurgicale. Dans certaines villes, comme c'est le cas à Orléans, on va couper les vivres au planning familial au motif qu'il serait trop politique, et on va financer pour le remplacer l'ouverture d'une maison Familia. Donc, on remplace en fait un espace de droit par un service de coaching visant à sauver les couples. En fait, on va repasser, la familia repasse dans une vision de la famille nucléaire hétéronormée qui vient d'un autre siècle.
Bon, qui finance ce réseau familial?
En fait, ce sont des gens qui ont les poches pleines, hein, notamment Pierre-Édouard Sterrin, qui est le fondateur de Smartbox. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des coffrets cadeaux. Il est également banquier de la droite ultra-conservatrice et via son fonds du bien commun, il déploie le plan, ce qu'on appelle Périclès, pour remplacer les structures progressives par des alternatives alignées sur ses dogmes. À ses côtés, il y a également la Fondation Saint-Irénée, qui n'est autre que le bras financier du diocèse de Lyon, donc l'Église catholique française. Pour nous, les personnes cuir, c'est une véritable catastrophe, hein, puisque le planning familial, c'est souvent le seul lieu où l'on peut parler de son orientation sexuelle ou de sa transition sans être jugé. Chez Familia, par contre, ben, ils prônent une approche qui est plus naturelle, qui domine, évacuant notamment les questions de plaisir et d'identité de genre. Ils tentent même de récupérer, et c'est ça qui est dangereux également, les agréments d'éducation sexuelle pour entrer dans les classes et remplacer l'éducation au consentement par la maîtrise des émotions, en fait. Et il faut le préciser, moi je tiens vraiment à le hurler fort. Nos corps ne sont pas un investissement pour milliardaires.
Bon, après là, ces dossiers lourds, on va terminer avec une note plus nuancée de la Fédération protestante de France.
Oui, alors de temps en temps, on a des bonnes nouvelles et ça vient là pour, hein, en effet, de la Fédération protestante de France qui a publié le 30 janvier dernier un document intitulé Les personnes trans. En fait, ben, elle modifie complètement l'accueil des personnes transgenres au sein de l'Église. Elle adopte notamment le terme incongruence de genre qui est souligné donc par l'OMS. Et l'Église sort ainsi de la pathologie mentale pour entrer dans une dynamique de devenir. Il propose notamment une relecture, hein, de la Genèse où hommes et femmes ne sont plus une binarité hermétique, mais deux pôles d'un spectre. Le texte ouvre la reconnaissance du prénom d'usage et une place pour les personnes trans dans les ministères. C'est la preuve que la religion peut aussi être un abri. Ce que je voulais signaler, c'est que l'Église protestante a été l'une des premières, si ce n'est la première, dès les années 80, à unir des couples de même sexe en France.
Christophe Gérard à Méru, en France. Merci beaucoup.